Radio de la Paix, il est 12h. Le journal de midi, Mel Emmanuel.
Bienvenue au journal de la mi-journée, voici les titres. La responsabilité sociétale des entreprises pour une Côte d'Ivoire solidaire, quel partenariat État-secteur privé? C'est le thème autour duquel se tient la journée nationale du partenariat État-secteur privé JNP 2023 les 6 et 7 novembre à Cocody. À l'international, la Libye a expulsé de son territoire 600 Égyptiens en situation irrégulière hier lundi par l'organe chargé de lutter contre l'immigration clandestine. Enfin, à propos de la reprise des élections dans 9 communes et une région, l'invité de la rédaction, Dr Séverin Kwame, lance un appel à tout mettre en œuvre pour garantir des résultats crédibles. Merci de choisir Radio de la Paix. La responsabilité sociétale des entreprises pour une Côte d'Ivoire solidaire, quel partenariat État-secteur privé? C'est le thème sur lequel se tient la journée nationale du partenariat État-secteur privé JNP 2023 du 6 au 7 novembre à Cocody. Cet événement constitue une opportunité pour les deux parties de faire le bilan et de dresser les perspectives du partenariat qui les lie, ce en vue de renforcer le dynamisme de l'activité économique selon les organisateurs. Matatoré.
Il sera question de faire un état des lieux des responsabilités sociétales des entreprises en Côte d'Ivoire et de poser les bases pour un RSE plus impactant. L'innovation majeure pour cette édition 2023, c'est la bourse des projets, selon Souleymane Diarasouba, ministre de l'Industrie du Commerce de Côte d'Ivoire.
La JNP 2023 va enregistrer une innovation majeure, à savoir l'organisation de la bourse de projets, une plateforme de mise en relation entre les porteurs de projets innovants. L'avantage de cette initiative réside dans l'alignement des investissements RSE sur les besoins sociétaux des communautés afin de maximiser leur incidence.
Les organisations sous-régionales CEDEAO, UEMOA, les partenaires au développement étaient parties prenantes également de ces GNP pour réitérer leur soutien à la Côte d'Ivoire dans son processus de transformation structurelle de son économie à travers plusieurs exemples de financement. Guy Blaise Nkaneu est représentant de la Banque africaine de développement à cette occasion.
À travers différentes opérations structurantes, comme le programme d'appui à l'amélioration du climat des affaires pour une transformation structurelle de l'économie ivoirienne, PACA-CI, qui soutient les activités du comité de concertation État secteur privé.
Des rencontres business to gouvernement, B2J, destinées à la résolution des préoccupations du secteur privé national auront lieu. La cérémonie de clôture sera marquée par la remise du prix du dialogue public-privé et la lecture des recommandations ainsi que de la feuille de route.
La Banque mondiale et la municipalité de Mont-de-Concert veulent booster le développement dans la commune, les équipements de santé, l'éducation socio-culturelle, mais aussi les infrastructures urbaines que sont les voiries. Le drainage et la gestion des ordures sont autant de projets à réaliser pour le bien-être des populations. La présentation du dit projet a été faite récemment à l'hôtel communal Gonkoulibaly de Mont. Plus de détails avec Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tompouy.
Camille Bourguillon, responsable du projet de développement inclusif des villes secondaires d'entre-deux-jeux, a expliqué les raisons et les bien fondés de ces projets qui verront le jour dans ces différentes villes bénéficiaires, dont la commune de Mans.
C'est un projet qui cible 8 villes secondaires, dont Mans. Et donc c'est un projet qui va être exécuté sur 6 ans et prévoit environ 22 milliards d'investissements dans des équipements de santé, éducation, sociaux et culturels, mais aussi tout ce qui est infrastructure urbaine, voirie, drainage et gestion des déchets solides. Un élément de renforcement de capacité de la mairie. Et c'est un projet de 6 ans et donc il était approuvé il y a 6 mois. Donc il ira jusqu'à 2029. Nous souhaitons voir des résultats. Le projet a déjà démarré parce que c'est un projet du gouvernement ivoirien. Donc nous le finançons tout simplement.
À la réception de cette nouvelle liée à la réalisation de plusieurs projets de cette nouvelle mandature avec la collaboration de la Banque mondiale, le maire de Mans, Aboubacar Fofana, s'est réjoui en ces termes.
Le projet que vient d'annoncer la Banque mondiale au cours donc de cette rencontre de ce matin, vient est pour nous source de beaucoup d'espoir. Nous attendons donc continuer à renforcer ce vaste programme donc de dotation de la commune en infrastructure à travers ce programme de la Banque mondiale. Et on espère qu'en plus de ce que nous avons déjà planifié, la Banque mondiale viendra en tout cas combler autant de vides que possible pour que notre commune puisse bénéficier du maximum d'infrastructures modernes pour pouvoir continuer son développement qu'elle amorce.
Une visite terrain a également meublé cette journée de collaboration. Stéphane Adams, Man, Radio de la Paix.
Le Rotary Club Abidjan Golf a organisé ce samedi 4 novembre 2023 un dîner gala pour collecter des fonds afin de mettre en œuvre ses actions sociales en faveur des populations. Au cours de cette cérémonie, plusieurs personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale, ont été distinguées. Les détails avec Jean-Mélène Bitté.
Lors de cette nuit de l'espoir, le président du Rotary Club Abidjan Golf, Alain Kété, est revenu sur les axes prioritaires de sa mandature.
Nous avons prévu d'intervenir sur trois axes prioritaires. L'axe de l'éducation. Nous avons aussi prévu une autre action dans le domaine aussi de l'eau potable. Et enfin, nous avons une action phare qui est celle dans l'axe santé de la mère de l'enfant. Nous voulons accompagner le centre de soins des mères kangourous qui permettent de donner de la vie à des enfants qui naissent dans des situations vraiment précaires de sous-poids.
Recevant la citation du président du Rotary International et le titre de Paul Harris, du nom du fondateur du Rotary International, Adama Bictogo a salué l'engagement de ceux qui œuvrent pour le bien-être des enfants.
Cette distinction vient me conforter et je voudrais donc dédier cette distinction à ma famille, à tous ceux qui, partout, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que des enfants survivent.
Il est bon de créer des chaînes de solidarité, a déclaré Iensier, directeur général du port autonome d'Abidjan, parrain de cette soirée de l'espoir.
Nous aidons un peu les CHU, nous aidons les maisons SOS, les pouponnières, nous aidons aussi les enfants dans le cadre de la sécurisation. L'État travaille au bien-être des populations, mais cependant, il y a toujours un besoin additionnel. L'État ne peut pas tout faire et il est bon parfois de créer des chaînes de solidarité pour accompagner les personnes dans les besoins.
Pour cette rentrée scolaire, dans le cadre de ces actions, le Rotary Club Abidjan Golf a octroyé des bourses d'études à plus d'une trentaine d'élèves issus des milieux défavorisés.
Un atelier de validation du premier guide des droits du travailleur ivoirien s'est tenu ce lundi 6 novembre 2023 à Abidjan. Il s'agit d'une validation tripartite par les organisations de travailleurs, d'employeurs et l'État. À l'ouverture des travaux, le directeur pays du BIT, initiateur du projet, est revenu sur l'importance de ce document.
Messieurs les représentants des organisations de travailleurs, ce document, c'est vous les premiers qui l'avez construit avec le consultant qui vous a accompagné dans la formulation de ce guide. Et c'est à vous qui s'adresse en premier, bien sûr. Il y a un an de cela, vous procédiez déjà à sa première validation. À cette occasion, vous avez su faire ressortir les points saillants de la législation du travail à rendre plus explicite ici en Côte d'Ivoire. Vous avez su rendre compte aux consultants de certaines pratiques que vous avez jugées nécessaires de faire apparaître dans le document et qui apparaissent comme des choses sur lesquelles le guide devait fournir des éléments d'information et de renforcement des capacités des organisations syndicales sur ces questions. Je voudrais vous en féliciter et vous dire que cette seconde validation tripartite, cette fois, s'inscrit dans le processus d'édition de ce document qui, conformément aux principes de l'OIT, exige une validation tripartite afin que tous les acteurs du monde du travail s'accordent sur ce que contiendra ce document. Un document comme celui-là, un guide, c'est un outil. Un outil, il n'est utile que si on l'utilise. Et donc, pour qu'on puisse l'utiliser, il faut que tout le monde soit confortable. Bien sûr, les organisations de travailleurs, mais aussi l'inspection du travail qui peut en l'utiliser, et bien sûr les entreprises, et notamment les micros et les petites entreprises.
À l'instant, les propos du directeur pays du BIT, Frédéric Lapeyre, recueillis par Junior Cardin. L'association ivoirienne pour le bien-être familial a présenté récemment à Daloa aux autorités administratives et politiques une initiative visant à réduire la mortalité néonatale et promouvoir le planning familial dans le Haut-Sassandra et en Côte d'Ivoire. Cette initiative, le projet dit Advocacy and Accountability Collaborative, est une action de plaidoyer pour l'adhésion et le soutien de tous les acteurs à l'initiative de Momentum Country and Global Leadership. Le projet est financé par l'USAID et Momentum, compte rendu Jean-Noël Kwame.
Jean-Pierre Agosso, chargé du suivi évaluation au cabinet d'études démographiques et de statistiques sociales, relève les difficultés à surmonter pour une meilleure promotion de la planification familiale en Côte d'Ivoire.
Les produits de planification familiale et de santé maternelle néonatale sont gratuits, mais connaissent des problèmes de rupture. Le coût des contraceptifs sont des problèmes. Il y a la loi santé de la reproduction qui est en projet depuis 2015 et ça tarde. C'est seulement 40% des besoins de la Côte d'Ivoire qui ont été financés. Il y a au moins 60% dont le financement est à rechercher.
Jelly Nguessan, représentant le directeur général de l'AIBF, est revenu sur les objectifs de ce projet TAC.
Le mécanisme TAC va permettre de pouvoir mieux définir les stratégies, d'avoir un élément de redevabilité auprès des partenaires. Au niveau du pays, on a un lot important en termes de décès maternels. Il y a encore des efforts qui restent à faire afin qu'on puisse avoir des femmes qui accouchent sans problème et que les décès soient véritablement réduits. Pour impacter le développement, la démographie explose, il faut prendre des engagements en termes de planification familiale.
L'Agence ivoirienne de bien-être familial, AIBF, entend faire le plaidoyer, soutenir l'État et garantir les droits liés à la santé de la reproduction en Côte d'Ivoire. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Présent à la 8e édition du festival culturel Adaïe Kessier du Peuple Bron, tenu à Tabagne dans le département de Bondoukou, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Kakouadja Adom, a félicité les acteurs impliqués dans l'organisation de cet événement qui devient de plus en plus attrayant. Il a exhorté les initiateurs à produire, désormais, des supports de tout genre à mettre à la disposition des missions diplomatiques et consulaires à l'étranger en vue de la meilleure promotion de ce festival au-delà des frontières ivoiriennes. Léon Kakouadja Adom.
En matière culturelle, le peuple bronc et de façon plus large, l'ensemble des populations du district des enfants jouissent encore d'un riche patrimoine culturel authentique, attrayant, qui mérite d'être transmis en héritage de génération en génération. Organisé au fil des années, le festival a des caissiers qui contribuent au rayonnement et à l'attractivité culturelle et touristique de notre pays. Je voudrais donc féliciter l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation de cet événement et les exhorter à produire désormais des supports de toute nature qui seront mis à la disposition de nos missions diplomatiques et services consulaires à l'étranger en vue d'une meilleure promotion de ce festival au-delà des frontières ivoiriennes.
À l'instant, les propos de Léon Kakouadja Adom, rapportés par Jérôme Kouassi, notre correspondant dans le district du Zanzan. À l'international, la Libye expulse 600 Égyptiens en situation irrégulière. Après avoir contraint en juin dernier près de 1000 Égyptiens à quitter son territoire à pied, lundi, ce sont des centaines d'autres qui ont été reconduits au poste frontière d'Emsaed par l'organe chargé de lutter contre l'immigration clandestine. L'organe a organisé des convois routiers depuis Tripoli, dans l'ouest, vers la frontière avec l'Égypte, dans l'est du pays, pour envoyer 600 ressortissants Égyptiens en situation irrégulière en coordination entre régions rivales libyenne. Retour en Côte d'Ivoire, le ministre des Transports, Amadou Koné, a effectué hier dimanche une visite terrain des différents chantiers qui rentrent dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023 à Korogo. Ainsi, après l'aéroport pour apprécier l'état d'avancement des travaux, le ministre Amadou Koné a eu une séance de travail à la préfecture de région avec le préfet et la police nationale sur la question du plan de circulation prévu pendant la compétition. Au terme de toutes ces étapes, le ministre a affirmé que l'heure est au détail pour améliorer davantage tous les chantiers en cours. On l'écoute dans des propos recueillis par Marcel Bonny.
Nous sommes sur des détails. Hein. Ce sont des choses sur lesquelles tout le monde a travaillé depuis un moment. Donc ce sont des détails que nous sommes en train de regarder. On va continuer d'affiner jusqu'à la veille du dernier match qui va se jouer ici. Parce que après chaque match, on a la chance d'avoir ici la Ligue des champions féminines qui va se passer. On va tirer des leçons aussi parce qu'on veut vraiment être perfectionniste. On veut améliorer les choses, sinon tout a été étudié, tout a été travaillé depuis longtemps. Je suis venu regarder comment ça se fait, ce qui a été prévu, ce qui est en train de se faire. Vous voyez tous les travaux, même sur la voie de contournement qui ont commencé. Donc nous sommes venus regarder tout ça pour regarder dans le détail donc les améliorations possibles. Et donc c'est ce qui va nous permettre d'adopter quelque chose de définitif en intégrant les améliorations à ce qui a été commencé, et si bien commencé par les uns et les autres.
Amorçons le dernier virage de ce journal. L'invité de la rédaction de ce jour est sociologue, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Se prononçant sur la reprise le 2 décembre 2023, comme annoncé par la CEI, de l'élection municipale dans 9 communes et de l'élection régionale dans la région du Guémont, il appelle à tout mettre en œuvre pour leur garantir des résultats crédibles. Docteur Séverin Kwame répond à cet effet aux questions de Francis Cassi.
Docteur Séverin Kwame, bonjour.
Oui, bonjour, M. Kassé.
Le Conseil d'État a décidé que certaines élections locales soient reprises et la CEI a annoncé le calendrier, c'est-à-dire la date de ces élections-là pour le 2 décembre. D'abord, qu'en pensez-vous?
S'il y a des raisons qui font que ces élections doivent être reprises, c'est de bonne guerre qu'elles soient reprises. La grande question, c'est qu'on prenne toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas une répétition de ce qui a conduit à la reprise de ces élections.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu à cette reprise?
Ben, l'enjeu, il est toujours le même. Le premier enjeu, de mon point de vue, c'est que le suffrage des électeurs soit exprimé et respecté. C'est déjà ça. L'autre chose, c'est la capacité de la CEI à organiser des élections qui fassent la part belle à beaucoup plus de convivialité et à moins de tensions. Et puis la troisième des choses, c'est la capacité même des citoyens à participer à un scrutin sans qu'il n'y ait de risque de confrontation.
Lors des élections passées, beaucoup de voix se sont élevées contre la CEI. Qu'est-ce qu'on a pu reprocher à la CEI exactement?
Bon, vous savez, quand on organise des élections, il y a différentes choses. Est-ce qu'on a garanti un environnement qui permette aux électeurs d'exprimer leur voix? Et est-ce que ces voix qui ont été exprimées dans la façon dont on a dépouillé et transmis, ça reflète en fait le désir des électeurs? Je crois que là-dessus, il y a eu beaucoup de voix qui sont élevées pour dire qu'il y a des soupçons de fraude, il y a des soupçons de manipulation des résultats. La récurrence des complaintes laisse entendre qu'il y a quand même du travail à faire.
Vous, en tant qu'expert et puis en tant que citoyen aussi intellectuel, quels sont les conseils que vous donnez pour que la CEI ait le blason redoré?
Bon, je ne peux pas me permettre, moi, en tant que citoyen lambda, de donner des conseils à la CEI, mais il est important que l'attention des uns et des autres soit attirée sur quelque chose. Déjà, le personnel en charge de gérer le scrutin. Je pense que techniquement, il y a eu des observations qui ont été faites que dans de nombreux centres de vote, le personnel n'était pas forcément à la hauteur. Il y a eu des cas où même le décompte simple, le calcul des taux de participation, etc., était sujet à caution. Je crois qu'il y a un travail à faire pour professionnaliser ce personnel-là électoral et pouvoir avoir un vivier de personnes qui soient compétentes pour gérer ces questions. L'autre dimension, c'est comment on rassure les uns et les autres sur le fait que les résultats dépouillés, obtenus, soient ceux qui sont transmis et qui soient communiqués. C'est là où parfois aussi il y a beaucoup de suspicions. Donc ce sont des choses sur lesquelles il faut innover pour que justement les uns et les autres soient rassurés. Parce que voilà, on est dans une société où on est un peu fatigué de ce que chaque joute électorale soit source de tension et de suspicion.
Et puis il y a un autre point aussi contre lequel des voix se sont élevées, c'est que des gens ont dit que là où ils étaient inscrits régulièrement, où ils votaient régulièrement, arrivé dans le centre de vote, leur nom n'y figurait pas et on leur avait dit comme ça qu'ils étaient inscrits ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça?
Pour moi, le problème, il remonte même à Namon. C'est toute la question de l'inscription sur la liste électorale et la stabilisation de notre territoire. Les questions liées à la transhumance politique, les questions liées au fait qu'on ne retrouve pas ça. Ça, c'est des choses sur lesquelles je pense qu'on doit pouvoir légiférer et trouver une solution définitive. Mais pour ça, il faut un dialogue politique. Il faut que les différentes parties prenantes s'accordent sur, justement, des règles du jeu qu'on doit respecter. Là-dessus, je crois qu'il faut aussi évoluer avec l'ère du temps. Il faut pouvoir utiliser ce que les nouvelles technologies nous offrent, de sorte à ce qu'on puisse utiliser l'opportunité de l'élection comme un moment pour renforcer notre démocratie.
Tout le monde parle de démocratie, d'élections apaisées, mais il s'avère que dans certaines localités, il y a des gens qui viennent carrément casser des urnes, viennent mettre la violence, et puis bon, ces personnes-là, on n'arrive pas toujours à mettre la main sur elles. Pourquoi?
Oh, vous savez, partout où des élections sont porteurs d'enjeux, il y a toujours justement ce type de risque. Le plus important, c'est de savoir que ces risques existent et de les canaliser. Là-dessus, il faut identifier les mineurs et pouvoir les sanctionner. Je crois qu'on est dans un pays où parfois, il y a ce sentiment d'être des intouchables parce que on est en connexion avec des personnes qui sont dans le cercle de pouvoir et qui donnent le sentiment aux uns et aux autres qu'il y a une sorte d'impunité. Sanctionner, ça va permettre aux gens de ne pas récidiver.
Donc, il y a une instrumentalisation des hommes politiques derrière ça, c'est ça?
Ça va au-delà des hommes politiques. Aujourd'hui, moi, je parlerais plutôt d'entrepreneurs de violence. On est dans des contextes où il y a des gens qui ont un intérêt à la violence, quelle qu'elle soit. Et le scrutin peut être une opportunité de violence. Donc, envoyer des gens casser des urnes, ça peut participer justement de cette économie politique de la violence qu'il faut comprendre, qu'il faut adresser en amont. Le plus important, c'est la question de la lutte contre l'impunité et le sentiment d'être des intouchables. Il faut que la loi s'applique à tous et qu'elle soit exemplaire en termes de sanctions.
Un appel à tous les candidats et puis aux électeurs de ces différentes zones.
Démarcher les populations pour qu'elles viennent voter. Et une fois qu'ils ont voté, sécuriser leur vote. Et qu'on n'aille pas démarcher les gens sur leur peur pour leur dire, voilà, si vous ne m'élisez pas, vous aurez des problèmes avec les autres, etc. Je crois que le plus important, c'est qu'est-ce qu'on offre? Est-ce que les gens comprennent ce qu'on leur offre? Et est-ce qu'elles seront en capacité de sanctionner si à la fin du mandat électif, la personne qu'on a élue sur la base de son offre politique ne fait pas ou n'a pas fait ou n'a pas suffisamment fait ce qu'elle dit qu'elle allait faire. Donc je crois que c'est là aussi où il faut travailler.
Docteur Séverin Kwame, je vous remercie.
Merci beaucoup, M. Kassi.
C'était l'invité de la rédaction, Dr Séverin Kwame, en entretien avec Francis Kassi. Nous voici arrivés à la fin de ce journal, le rappel des titres. La responsabilité sociétale des entreprises pour une Côte d'Ivoire solidaire, quel partenariat État-secteur privé? C'est le thème sur lequel se tient la journée nationale du partenariat État-secteur privé JNP 2023, les 6 et 7 novembre à Cocody. Et puis à l'international, la Libye a expulsé de son territoire 600 Égyptiens en situation irrégulière hier lundi par l'organe chargé de lutter contre l'immigration clandestine. C'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie de Jean-Mélène Bitti pour la revue de presse. Bon appétit.
Bonjour à tous. La succession de Henri Konan Bédié au PDCI.